Mot de bienvenue à vous, comment l'assemblée?
Merci. Alors ce soir, l'ouverture de la conscience. Alors je vous laisse à votre commentaire d'ouverture.
C'est très bien. Alors nous reprenons. Il y avait quelque part une grande ville. Cette ville était entourée de toutes parts d'un mur de béton. Ce mur était tellement élevé que personne n'osait penser pouvoir le traverser. De plus qu'au sommet, il était cousu de barbelés. De plus, tout autour, en bas, de l'intérieur, il y avait des gardes engagés par les autorités de la ville pour garder les murs afin que personne n'ait la tentation de les franchir. Le peuple qui habitait cette ville était habitué à cette forme. Les gens cultivaient la terre pour leur nourriture, les autres étaient tisserands, et les parents et les mères surtout élevaient et éduquaient les enfants à toutes les normes et les lois et structures qui étaient demandées par les autorités. Personne ne se plaignait de leur sort et tous, jour après jour, répétaient le même travail. Mais voici qu'un jour, un petit garçon se mit à interroger son père. « Père, pourquoi y a-t-il un mur ?»« Parce que quelqu'un les a construits. »« Et pourquoi les a-t-on construits ?»« On les a construits pour protéger la ville. » »« Et de quoi la ville est-elle protégée ?» reprit l'enfant. « Je ne sais pas, » dit le père. « Alors, si tu ne le sais pas, pourquoi dis-tu qu'elle est protégée contre quelque chose ?»« Je le dis parce qu'on me l'a enseigné. » »« Et qui t'a enseigné ceci ?» dit l'enfant. « Ce sont les maîtres, ceux qui nous dirigent, ceux qui ont l'autorité. » »« Et qu'est-ce que l'autorité ?» dit l'enfant. « Cesse de questionner, » dit le père. « À la longue, tu m'exaspères. » L'enfant s'arrêta, mais il reprit quelques jours plus tard. Et il dit, « Qu'y a-t-il de l'autre côté du mur, père ?»« Je ne sais pas, » dit l'homme. « Tu ne vas pas commencer à me re-questionner à nouveau. »« Je veux savoir, » dit l'enfant. « Mais tu n'as pas besoin de savoir. Peut-être qu'il n'y a rien de l'autre côté du mur. »« Alors de quoi nous protégeons-nous ?» dit l'enfant. Le père se mit alors en colère. Il dit à l'enfant, « Je ne veux plus jamais que tu me poses de questions sur ce mur, car si tu m'en poses, je devrais te déclarer aux autorités et alors tu devras faire des travaux forcés. » L'enfant s'arrêta devant le père. Il le regarda et il dit, « Père, je ne comprends pas. » Il cessa de poser des questions à son père, mais il ne cessa pas de s'en poser à lui-même. Parfois, la nuit, il sortait de la maison. Il regardait le ciel étoilé et il disait, « Je suis certain que le ciel ne se termine pas là. Je suis certain que la lune vient de quelque part. Mais personne ne sait d'où elle vient. Personne ne sait si le ciel s'étend sur une longue espace. Comment pourrais-je savoir ceci ?» Et il continuait de se questionner. Il avait osé, même en vieillissant, poser des questions au professeur, mais on l'avait enjoint de se taire. Il vieillit, se maria, eut des enfants, mais il portait toujours dans son cœur une grande tristesse parce qu'il avait des questions sans réponse. Un soir qu'il était tellement triste, il sortit. Il observa où s'étaient attroupés les gardes et il s'en alla dans la direction opposée. Puis il se coucha au pied du mur, il se mit à pleurer. Et il dit, « Si quelqu'un peut m'entendre de l'autre côté du mur, qu'il vienne à moi maintenant. » En disant ceci, il sentit qu'une pierre venait de tomber sur le sol. Il leva le regard, et quelle ne fut pas sa surprise d'apercevoir au sommet du mur un enfant tout habillé de lumière qui jouait avec un cerf-volant. Il lui dit, « Va te cacher, c'est dangereux, Il y a des gardes. Je n'ai pas peur, lui répondit l'enfant. Mais que fais-tu ici? Je suis venu te voir. Et disant ceci, l'enfant sauta en bas du mur. Il arriva sur le sol comme s'il avait dansé une farandole et il n'était pas plus douloureux que cela. L'homme s'approcha de lui, il voulut le protéger et il lui dit, « Mais qui es-tu et d'où viens-tu ?»« Mais tu m'as appelé, » dit l'enfant. « Comment je t'ai appelé ? Tu as entendu de l'autre côté du mur ?»« J'ai toujours entendu, » dit l'enfant. « Mais toi, qui es-tu et d'où viens-tu ? Pourquoi es-tu si beau et que moi je suis ici, enfermé dans cette ville ?» Dans la tristesse, parce que tu ne sais pas qui tu es, dit l'enfant. Mais qui est-ce que je suis, dit l'homme, un peu ébahi par cette question. Et l'enfant lui dit, mais tu es moi, et il éclata de rire. L'homme lui dit, je ne comprends pas. Alors l'enfant sortit de sa poche une clé. Il lui remit la clé, et il lui dit, reviens ici. À la même heure, à la même place, dans 7 jours. Et il partit. Alors l'homme regarda partout où était passé l'enfant. Il ne voyait rien. Il faisait sombre. Il se dit, c'est comme si cet enfant s'était éteint. 7 jours plus tard, il revint. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas cessé de réfléchir à cet enfant de lumière qu'il avait vu au sommet du mur. Alors il s'approcha, mais il n'y avait rien. Il refit la même demande. « Si je suis entendu, que quelqu'un me le dise. » Et tout à coup, l'enfant apparut à nouveau. Alors il dit à l'enfant, « J'ai une clé, je ne sais pas quoi en faire. J'ai fait le tour de tous les murs. » De la cité, je n'ai pas trouvé un seul espace où je pourrais utiliser cette clé. Alors l'enfant lui dit, « Tu es très amusant, tu cherches au dehors ce qui est au-dedans. » Alors l'homme s'arrêta et il comprit immédiatement que cette clé était pour ouvrir le cœur. Alors, dans un grand moment de réflexion, il accueillit l'enfant dans ses bras. Il sut que cet enfant, c'était lui. Puis il dit, « Si cet enfant a traversé le mur, je le peux moi-même. » En disant ceci, il se trouva de l'autre côté du mur. Puis il s'éveilla de son sommeil, car il avait dormi. Et cette cité dont il avait rêvé, il savait bien que c'était lui-même. Et tous ses gardes de corps, et tous ces êtres qui voulaient l'empêcher de poser des questions, il savait bien que c'était lui-même. Et cet enfant qu'il avait enfin contacté, il savait que c'était l'enfant de la conscience et l'enfant de la connaissance. Et nous vous dirons, cet homme, c'est chacun de vous. Chacun de vous qui êtes dans l'espoir de trouver quelque chose de meilleur. Chacun de vous qui n'avez pas encore découvert que derrière vos désirs, il y a le désir de trouver Dieu, que derrière vos émotions, il y a le désir de vivre des émotions bien supérieures, que derrière vos murs, il y a la lumière, il y a la liberté, il y a l'infini, il y a ce qui est illimité. Alors, nous vous dirons que la conscience, c'est d'abord le retour à soi-même, car vous pouvez chercher à l'extérieur de vous pendant des siècles et des siècles et ne pas trouver la sagesse, et ne pas trouver la conscience, et ne pas trouver la connaissance. Si vous n'avez pas compris que cette sagesse, cette conscience et cette connaissance sont issues de vous, sont à l'intérieur de vous et que nulle part ailleurs, vous n'allez les trouver. Mais lorsque vous aurez trouvé la conscience, c'est-à-dire la connaissance, la sagesse et l'amour, car tout ceci ne fait qu'un, lorsque vous aurez trouvé ceci à l'intérieur de vous, Alors vous ne serez plus divisés. Alors vous ne serez plus harcelés, nous dirons, par toutes les tensions de la personnalité. Vous ne serez plus même l'esclave de l'individualité, mais vous serez dans une telle énergie de fusion qu'à ce moment-là, vous pourrez goûter des vibrations qui sont si grandes, qui sont si lumineuses, qu'elles ne sont pas encore connues sur le plan terrestre. Et ce seront les vibrations de la conscience pure, de la conscience parfaite, de la conscience qui est amour, de la conscience qui est sagesse, de la conscience qui crée, de la conscience qui fait un, qui est le tout. Alors, à chacun de vous, nous souhaitons ce chemin, et à chacun de vous qui vous êtes déplacé pour venir ici ce soir, nous remettons de façon symbolique une petite clé. Elle est faite de cristal. Vous pouvez la placer au troisième œil, car nous vous dirons, l'énergie de votre troisième œil est en train de se transformer. Et avec cette clé de cristal, vous allez pouvoir ouvrir une porte sur des mondes que vous ne connaissez pas encore. Et maintenant, nous serions prêts pour vos questions.
Oui, une première question. Si la conscience est le chemin, y a-t-il des moyens d'ancrage, de visualisation ou autres moyens pour augmenter ou amplifier notre état de conscience et avoir la certitude que l'on a compris la vibration?
Nous vous dirons que oui. Nous vous dirons que tous les gestes que vous posez, tout ce que vous faites, peut vous permettre d'élargir la conscience. Si tout simplement vous êtes centré à l'intérieur de vous-même, si vous êtes décentré, poseriez-vous les gestes les plus parfaits extérieurs? C'est comme si vous n'enregistrez pas les vibrations. Pour enregistrer les vibrations, il faut être centré, et le centre est dans le cœur. Le centre est là où habite ce roi, où habite cet enfant roi qui connaît tous les chemins et qui connaît tous les parcours. Nous vous dirons, vous pouvez être en train de conduire votre voiture, d'être centré sur cette lumière qui est à l'intérieur de vous, et nous vous dirons peut-être que vous évoluez davantage en posant ce geste simple, mais avec une conscience parfaite, que vous ne le feriez si vous étiez en train de jeûner au sommet de la montagne pour acquérir cette sagesse, si vous n'êtes pas présent à vous-même. Alors, ce n'est pas nécessairement ce que vous faites, mais comment vous le faites. Et dans ce comment, c'est tellement simple la recette. Vous voudriez avoir, nous dirons, des recettes très compliquées avec des exercices qui sont longs, que vous devez faire en état yogique et ainsi de suite. Mais nous vous dirons que la conscience, elle s'acquiert par un retour conscient et constant, jour après jour, heure après heure, minute après minute, un retour à soi-même. Et nous vous dirons que ceci n'est pas donné, que ceci n'est pas acquis une fois pour toutes. Tant que vous serez sur le plan terrestre, ceci exigera de vous une forme de volonté, une forme de, nous dirons, d'attention. Nous dirons une polarisation de toute votre énergie vers ce centre qui est là. Car dans ce centre, il y a le moteur qui vous propulse dans l'espace. Et nous ne parlons pas de l'espace tel que vous la connaissez. Nous parlons de l'espace cosmique. Nous parlons de l'espace intérieur. Nous parlons de cet espace qui est le Père. Car le Père est l'espace parfait. Et nous vous dirons, vous habitez dans le cœur du Père, mais c'est bien important de revenir sans cesse à Avec une forme de volonté qui n'est pas le volontarisme, mais qui est comme un mouvement. Car la volonté véritable n'est pas un geste posé.
C'est quoi cette affaire, c'est une
caisse? Pardon, monsieur?
Ça va, j'ai...
Alors, vous disiez?
Alors, nous disons que c'est un geste qui est un geste intérieur, un mouvement intérieur, et non point, vous savez, un mouvement qui est une contrainte. Ceci est comme un geste d'amour, comme respirer. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour respirer ou pour que votre cœur batte. Votre cœur sait ce qu'il a à faire. Vos poumons savent ce qu'ils ont à faire. Il en est de même pour la conscience.
La prochaine question.
Lors de notre ouverture de conscience, nous créons de grands vides allant jusqu'à une forme de perte de mémoire qui peut durer plusieurs jours et à ce moment-là, ne savons même plus qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Ces passages sont de plus en plus courts, mais aussi de plus en plus forts, provoquant des distorsions physiques que l'on ne pensait plus sentir. Pouvez-vous nous communiquer des outils pour nous aider dans ces passages importants? Et ça dit, je suis comme un oiseau sur une branche, avec la conscience de ma lumière, mais je ne sais plus voler. Help me.
Nous allons vous dire que la personne qui a posé cette question a posé la question pour plusieurs personnes ici, car cet état dont elle est, nous dirons, l'objet, sera l'état de plusieurs personnes dans les temps à venir. Vous aurez l'impression de ne pas savoir d'où vous venez, ni qui vous êtes, ni ce qui se passe, ni comment cette transformation s'opère à l'intérieur de vous. Alors, nous vous dirons qu'à ce moment-là, vous êtes en train de traverser une étape très importante, c'est-à-dire que vous êtes en train de quitter l'individualisation. Vous êtes en train de vous retrouver en dehors d'une forme de puissance collective qui attire vers le bas. Et c'est comme si, à ce moment-là, vous changiez tellement de taux vibratoire que vous ne savez plus si vous appartenez à la Terre ou si vous appartenez ailleurs. Nous vous dirons, il se peut que vous viviez ces états, par exemple le soir, juste avant d'aller au sommeil, ou parfois le matin, lorsque vous vous éveillez. Vous aurez aussi des états semblables pendant vos états de rêve, ou de ce que nous appellerons le rêve conscient. Mais nous vous dirons, la meilleure chose que vous devez comprendre, c'est que ceci n'est pas un état dramatique. Vous ne pouvez pas vous perdre dans ce vide, car ce vide n'est pas le vide. Il est tout simplement, nous dirons, l'espace laissé par la succion. C'est que vous êtes attiré. Lorsque vous avez fermé les chakras de la base et qu'alors, au lieu de vous centrer sur ces énergies qui sont les énergies du désir, vous commencez à tourner, nous dirons, votre pensée vers la conscience, vers l'ouverture de la connaissance et de la puissance qui est vôtre, nous vous dirons, vous vivez ces formes de déséquilibre. C'est comme si la lumière n'était pas encore totalement descendue dans les chakras de la base. Et c'est ceci qui crée les déséquilibres. Le seul exercice que nous pourrions vous proposer, c'est un exercice que nous avons déjà donné et nous savions que nous le donnions de façon prématurée, c'est-à-dire avant même que vous soyez rendu, nous dirons, dans ces formes d'état. Cet exercice est de faire descendre l'énergie du chakra de la gorge et du chakra du cœur au premier chakra. Ceci va vous permettre de vous ancrer dans la terre. Ceci va vous permettre de rejoindre les vibrations de Sandalphon qui sont au centre de la terre. Car Saint Dalphon est un grand maître qui travaille. Il travaille de concert avec le Métatron et chacun d'eux savent, reçoivent les consignes des hiérarchies pour permettre aux êtres humains de pouvoir supporter ce grand bouleversement qui se prépare et dont vous faites l'objet actuellement. Nous dirons que ce bouleversement, c'est comme le changement d'axe. C'est comme si vous changiez complètement d'axe. Alors, en faisant descendre, en visualisant ces énergies de la gorge et du cœur dans la couleur verte et bleue qui devient un turquoise très puissant, très lumineux, que vous le placez dans le bas de votre corps jusqu'au bout de vos pieds, nous vous dirons déjà, vous allez sentir une vibration différente. Ensuite, vous prenez l'énergie du troisième œil avec la clé que nous avons donnée ce soir et vous l'apportez au second chakra. Ceci va permettre, avec la couleur violet, d'aider à terminer et à, nous dirons, à libérer ce second chakra qui, pour plusieurs, est encore rempli de vicissitudes et, nous dirons, de formes anciennes. Alors, cette énergie nouvelle va permettre de libérer le second chakra. Ensuite, prenez l'énergie de la couronne, qui soit de couleur blanche et de couleur or, et amenez ceci de façon très intense dans le plexus solaire. Il se peut que si vous faites cet exercice avec beaucoup d'attention, vous ayez l'impression de vivre un déséquilibre. Mais dites-vous bien que vous êtes supporté, que vous êtes entouré, que si vous êtes rendu à traverser et à vivre ce passage, c'est que déjà vous êtes supporté par des êtres de lumière qui, eux, connaissent bien l'état dans lequel vous vous acheminez. Ensuite, ouvrez le canal. Permettez au Métatron de faire descendre dans votre énergie des énergies plus puissantes. Bien sûr, il ne les fera pas descendre rapidement et nous dirons en entier dans un seul moment ou dans une seule journée ou semaine ou mois. Il va faire ceci de façon très progressive parce qu'il sait que le système nerveux doit d'abord s'ajuster avant que vous puissiez supporter cette lumière. Nous vous dirons, dans ce vide dont vous parlez, vous aurez peut-être l'impression que vous allez tomber. Vous allez peut-être avoir l'impression, même dans le corps physique, que vous êtes dans un espace et que vous allez être précipité au sol. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. À ce moment-là, c'est comme si vous êtes entouré dans un œuf de lumière et nous vous dirons, vous êtes supporté par les anges. Vous n'avez pas besoin d'avoir aucune crainte et aucune peur de tous ces mécanismes qui se produisent. À ce moment-là, nous vous dirons, sachez que vous êtes dans cet état, nous l'appellerons l'état fœtal de la lumière pure. Alors, c'est comme si vous êtes en train de réaliser que vous êtes dans ce processus de la construction de votre corps de lumière. Nous dirons aussi que si vous vivez des états semblables à celui-là ou qui pourront se produire de d'autres façons, sachez qu'il y a actuellement déjà au-dessus du plan terrestre un égrégore, c'est-à-dire un rassemblement de tous les êtres qui sont dans ces états d'ouverture de conscience. Alors, unissez-vous à tous ces êtres qui évoluent dans la conscience. Car lorsque vous avancez dans ce mouvement ascendant, vous entraînez beaucoup d'autres êtres avec vous. Et nous vous dirons déjà, d'autres êtres vous entraînent aussi. Vous ne faites pas ce passage seul. Ce passage est un passage collectif.
On peut vous offrir un peu d'eau?
Si ceci ne répond pas complètement à la question, que cette personne demande d'autres détails.
Est-ce qu'il y aurait quelques commentaires par rapport à cette question et cette réponse?
Vous pourrez couvrir la fonte, directeur.
La prochaine question.
Si l'ouverture de conscience nous amène, entre autres, à fusionner intérieurement nos deux polarités, est-ce que notre guide peut être symboliquement notre polarité complémentaire pour nous aider comme Sana Kumara est le pôle masculin de la Terre?
Nous vous dirons que, bien sûr que Sana Kumara supporte la Terre et qu'il endombre la Terre. Mais nous vous dirons qu'il n'est pas l'époux de la Terre. Pas plus que le guide qui peut être auprès de vous est votre époux ou votre état masculin ou votre état féminin. Mais il peut, par ses vibrations, vous aider à créer cet état de fusion. La fusion que vous ne la faites pas avec quelqu'un qui est extérieur à vous. Revenez au commentaire d'ouverture. Voyez cet homme qui est au moment de l'éveil de la conscience, qui rencontre cet enfant de lumière et qui le perçoit extérieur à lui. Écoutez bien la réponse de sagesse de l'enfant lorsqu'il dit « Mais tu me cherches en dehors et je suis toi ». Alors, nous vous dirons que le masculin, si vous êtes actuellement dans l'énergie féminine, est à l'intérieur de vous. Si vous êtes dans l'énergie masculine, le féminin est à l'intérieur de vous. Ceci n'est pas à l'extérieur. Et nous vous dirons, vos guides, ni même ce que vous appelez parfois les âmes sœurs, ne sont pas, nous dirons, des êtres avec qui vous allez réaliser l'état de fusion. L'état de fusion, c'est avec vous-même que vous allez la réaliser. Et quand vous l'aurez réalisé, alors vous allez entrer dans cet état que nous appelons l'état de non-personnalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus reposer sur les bases de la personnalité. Vous ne revenez plus dans la personnalité. Vous êtes comme si vous aviez perdu l'identification au plan terrestre. Et à ce moment-là, vous êtes dans une énergie de fusion telle que vous pouvez fusionner avec d'autres êtres, avec des êtres qui sont présents près de vous dans le quotidien ou qui sont déjà faisant partie de cet égrégore. Est-ce que ceci répond à la question? Étant donné qu'il y a des teneurs importantes dans les questions de ce soir, et nous savons que nous répondons que certaines personnes peuvent absorber cette énergie, mais que d'autres n'en comprennent pas toute la teneur. Ce n'est pas important que dans la matière ou que dans, nous dirons, l'intellect, vous ayez tout compris. Vos cellules, elles, ont des ouvertures suffisamment grandes pour comprendre. Mais si les réponses ne sont pas suffisamment claires, pour les personnes qui les ont posées, ne vous gênez pas pour demander des explications supplémentaires.
La prochaine question.
À part les 7 chakras connus, l'ouverture de conscience amène-t-elle l'ouverture des 5 autres chakras et pourriez-vous les situer et donner quelques informations sur leur rôle réciproque?
Nous avons déjà donné, nous dirons, une conférence tout entière sur la question des 12 chakras. Nous savons que cet enseignement est disponible actuellement. Nous vous dirons que oui, il y a 12 chakras, mais viendra un moment lorsque vous aurez franchi l'état que nous avons décrit précédemment, vous n'aurez plus besoin de la pulsion des chakras. Et actuellement, il n'y a pas que 12 chakras, parce qu'il y a plusieurs mini-chakras qui se développent surtout dans le cerveau. Et alors, nous pourrions parler de presque actuellement 17 chakras chez les êtres plus évolués, mais il y en a déjà parmi vous qui sont rendus à 15 et 18 chakras. Nous avons dit 17, nous voulons dire 27 chakras. Alors, nous répondons à cette personne qu'il y a un chakra qui est situé en bas du chakra de la base, qui est, comme nous dirons, lié à Sandalphon. Il y a aussi un chakra entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge, que vous pouvez appeler le chakra de la paix. C'est le lieu que vous allez habiter lorsque vous aurez franchi la porte du cœur. Vous allez sentir que s'établit à l'intérieur de vous un grand calme, une grande paix, que vous n'êtes plus troublé et que vous atteignez des états bouddhiques. Nous vous dirons qu'il y a aussi deux chakras qui sont situés derrière le crâne, au bas du crâne. Et nous vous dirons que ces chakras sont des portes énergétiques qui s'ouvrent afin de pouvoir, dans les temps présents, ajuster le système nerveux. Il y a encore un autre chakra qui est au-dessus de la tête, que vous pouvez appeler l'étoile cosmique ou le chakra de l'âme. Vous pouvez donner des noms différents. Ce que nous dirons au sujet des chakras, c'est qu'actuellement, il y a des transformations tellement importantes qu'il serait difficile de donner un enseignement qui va rester fixé dans la matière pour un long moment. Ce qui, autrefois, vous prenait, nous dirons, 2000 ans à vivre, vous le vivrez maintenant dans une période aussi restreinte que 10 ans. Alors comprenez bien que les transformations qui vont se faire dans la pensée collective, dans la conscience collective, dans les consciences individuelles, dans la transformation de la race, dans la transformation du corps physique, vont se faire très rapidement et souvent dans des, nous dirons, comme dans des formes de paliers différents, mais tous à la fois.
Le discernement est un don de l'Esprit-Saint. À quels critères peut-on reconnaître que nous avons reçu ce don et quand peut-on être certain que notre discernement est bon?
D'abord, premièrement, un des premiers critères, c'est que vous vous posiez la question par rapport au discernement. Si vous commencez à vous poser la question, vous êtes comme cet homme qui voulait avoir la certitude qu'il y avait quelque chose de l'autre côté du mur. C'est ceci qui lui a permis de traverser le mur à force d'efforts et à force de certitude intérieure qu'il n'avait pas à rester emprisonné. Il en est de même pour le discernement. Le discernement, bien sûr, est un don de l'esprit, mais si jour après jour, vous revenez dans votre royaume intérieur, dans votre cathédrale intérieure. Nous vous dirons, dès que vous êtes là, vous êtes soumise à l'énergie de l'Esprit, car l'Esprit, il vous habite. Il est le souffle divin qui souffle sans cesse sur le feu qui est à l'intérieur de vous et qui veut brûler ce qui a à être brûlé. Alors, nous vous dirons, vous n'êtes jamais éloigné de l'Esprit. Et si vous rentrez toujours en contact avec lui, avant de poser un geste important, nous vous dirons qu'il vous apportera le discernement. Demandez et ceci vous est donné. Mais déjà, de vous questionner sur le discernement est un signe de discernement. Lorsque vous dites, quand pouvons-nous avoir la certitude de ceci et de cela? Nous vous dirons, ne cherchez pas ces formes de certitude. Abandonnez-vous, lâchez prise, restez centré sur l'enfance, sur le cœur, sur l'esprit qui vous habite, sur cet amour qui naît à l'intérieur de vous. Et nous vous dirons, lâchez prise pour le reste, car les choses se font d'elles-mêmes dès que vous êtes centré sur cette lumière.
il y a une conscience individuelle et une conscience collective. C'est comme si nous apprenons actuellement que nous devons dépasser la conscience collective. Est-ce possible de nous parler de ces deux éléments-là?
Certainement. Nous vous dirons d'abord, il y a des êtres qui ont une conscience individuelle très développée. Mais comme ils appartiennent au plan terrestre, ils sont soumis d'une certaine façon par des lois qui sont des lois cosmiques et des lois créées et engendrées par la pensée. Et ces lois veulent que vous ayez des racines, c'est-à-dire que vous soyez responsable de la pensée collective. Car la pensée collective, elle est tout simplement l'agglomération de chacune des pensées individuelles. Alors, si vous avez des racines dans cette pensée collective, nous vous dirons, pour pouvoir vous sortir ou pour pouvoir vous arracher à la pensée collective, c'est que vous devez transformer votre propre pensée et que cette pensée devenant davantage lumière puisse couler sur la pensée collective qui elle-même va s'élever et vous permettre de vous élever. C'est comme si vous disiez, avec ma tête et avec ma pensée, je peux m'élever jusqu'au sommet, nous dirons, de l'astral. Mais vous pourriez aussi amener votre corps dans ce mouvement. Et votre corps physique, il est comme le symbole de ce qu'est la conscience collective. Actuellement, par votre pensée, vous pouvez aller dans des lieux et vous pouvez visiter, nous dirons, des espaces aussi merveilleux que les espaces de Shambhala, par exemple. Mais en même temps, il vous est impossible d'amener votre corps physique dans le monde de Shambhala actuellement. Mais lorsque vous aurez transcendé cette matière, c'est-à-dire que tout votre corps aura appris, il pourra venir avec vous dans ces mondes de Shambhala. Il en est de même pour la collectivité. C'est que vous avez une responsabilité face à la collectivité. Et pour prendre cette responsabilité, c'est que vous avez à prendre tout simplement la responsabilité face à votre propre évolution. Et alors, étant donné que vous faites partie de cette collectivité, vous permettez à la collectivité de s'élever.
Y a-t-il des questions ou un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit?
Est-ce que c'est vrai qu'éventuellement on doit se détacher de l'individualité pour aller de nouveau vers la collectivité?
Certainement, ceci est une question remplie de sagesse. Mais vous n'irez pas dans la collectivité de la même façon. Nous expliquons. D'abord, l'être humain a fait partie d'une collectivité. Il était englué dans cette collectivité. Il n'avait pas de personnalité. Il était comme si tous les êtres avaient été semblables. Ensuite, dans son cheminement évolutif, il a développé la personnalité. Observez bien, vous faites même ceci dans une incarnation. L'enfant qui naît, il ne naît pas nécessairement immédiatement avec une personnalité qui est manifestée. Il naît et il est comme soumis à son père et à sa mère jusqu'à un certain moment où il éveille la conscience et là il se manifeste avec son caractère, avec sa forme d'être et ainsi de suite. Alors il développe la personnalité. Vous avez vu, par exemple, il y a quelques années, peut-être une quinzaine d'années, il y avait partout ici dans le Québec des cours de personnalité qui étaient donnés, où les gens apprenaient à parler devant les autres, à s'affirmer, à dire qui ils étaient. Ils développaient cet élément de la personnalité. Mais une fois ceci acquis, et la personnalité nourrit beaucoup l'ego. Elle est beaucoup supportée par l'ego et applaudie par l'ego. Une fois que la personne a acquis cette degré de conscience, elle peut aller vers une forme d'individualité, c'est-à-dire qu'elle a sa pensée propre. Elle est capable de s'affirmer selon cette pensée propre. Elle est capable de se dégager de la pensée de masse. Ayant développé cette forme d'individualité, alors elle peut plus facilement revenir à elle-même. C'est comme déjà la porte d'entrée du retour vers soi-même. Mais une fois cette étape acquise, la personne avance dans un autre état. À ce moment-là, elle touche l'énergie de fusion dont nous avons parlé au début de cette soirée. Ceci crée parfois des déséquilibres, car c'est difficile de sortir de l'individualité autant que de sortir de la personnalité. Ceci crée des états qui au début sont confus, mais ensuite qui deviennent plus clairs. Puis l'être commence à comprendre qu'elle n'est divisée de rien, ni divisée de personne. À ce moment-là, elle peut retourner, nous dirons, dans cet état que vous avez appelé collectif. Et à ce moment-là, c'est là qu'elle atteint ce que nous avons appelé la dépersonnalisation. Elle ne fait plus les choses. Elle ne sert plus en fonction de son ego ou en fonction de sa personnalité, ni même en fonction de son individualité. Elle sert parce qu'elle a compris la fusion, parce qu'elle a compris cette énergie de co-création. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'elle devient co-créateur avec ses frères, qu'elle devient co-créateur avec les maîtres de la hiérarchie pour pouvoir ensuite franchir le palier de la co-création et aller dans l'énergie pure de création. Mais ceci est un long cheminement et suppose plusieurs degrés initiatiques et plusieurs, nous dirons, purifications. Nous ne parlerons pas ce soir de ce que sera l'énergie de création. Ceci dépasse véritablement l'entendement de l'être humain actuellement. Est-ce que ceci répond à votre question, cher monsieur?
Est-ce que l'éveil de la Kundalini est forcément un signe d'ouverture de conscience et pourriez-vous nous donner des commentaires, s'il vous plaît, et de l'information sur cette Kundalini qui nous entraîne parfois des moments difficiles?
Certainement. D'abord, nous allons vous dire que au sujet de l'énergie de Kundalini, il y a beaucoup de confusion parce que beaucoup de personnes ont interpréter que l'énergie de Kundalini était une énergie purement sexuelle, telle que vous connaissez la sexualité, c'est-à-dire dans le degré de génitalité. C'est là qu'il y a une grande confusion. Nous vous dirons, il a été enseigné par les maîtres depuis des millénaires. Il a été donné des enseignements au niveau de cette énergie de Kundalini. Nous vous dirons, l'enseignement qui a été donné par les maîtres était de dire que le serpent levé, c'est-à-dire qui était entouré sur lui-même, était endormi au bas de la colonne vertébrale et qu'il attendait que l'on ouvre suffisamment sa conscience pour lui permettre de vivre cette extase et cette, nous dirons, toute la vibration de son énergie vitale. Nous vous dirons, il y a des gens qui font prématurément des exercices pour éveiller la Kundalini alors qu'ils n'ont pas encore commencé ou suffisamment travaillé sur eux-mêmes à dégager les chakras de la base. C'est dangereux de réveiller le serpent levé au bas de la colonne lorsque les trois chakras de la base sont encore en effervescence dans l'énergie ancienne, qu'ils n'ont pas été éteints et qu'ils n'ont pas reçu les vibrations supérieures. Alors, nous vous dirons que si vous avez des problèmes, avec cette énergie de Kundalini ou cet éveil, c'est parce que vous avez passé par-dessus des étapes. Vous avez voulu franchir des étapes avant de faire véritablement le nettoyage de votre énergie, avant d'être véritablement passé par l'énergie du détachement. Si vous n'êtes pas détaché, si vous êtes encore dans la séduction, si vous êtes encore piégé par l'ego, si vous êtes encore, nous dirons, à l'affût de tous les désirs de posséder la matière et ainsi de suite, et que vous tentez d'éveiller la Kundalini, nous vous dirons, certains maîtres vous diraient que vous tentez le diable. Alors, à ce sujet, nous vous dirons, soyez d'abord dans cet état de conscience qui se libère des énergies anciennes. Centrez votre énergie sur le chakra du cœur et sur le thymus. Centrez votre conscience sur cette lumière qui, nous dirons, non seulement s'éveille en vous puisqu'elle est déjà éveillée, mais nous vous dirons, se manifeste et s'élargit à l'intérieur de vous. Plus vous allez vous centrer sur cette lumière, plus cette lumière va s'élargir, plus elle va laver votre aura et plus elle va faire sortir de votre aura tous les, nous dirons, tous les encodages anciens qui doivent être libérés. À ce moment-là, ne vous éteignez, ne vous, nous nous excusons, ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, vous saurez ce qu'est l'énergie de Kundalini. Et nous vous dirons l'énergie de Kundalini, elle se manifeste dans la paix. Elle se manifeste dans un grand calme qui s'établit à l'intérieur de l'être. L'énergie de Kundalini, ce n'est pas un orgasme comme ceux que vous connaissez dans la chair. C'est un orgasme du cœur qui est établi dans la paix et dans l'amour inconditionnel et dans un regard sur l'univers et sur vos frères qui soit un regard de paix, un regard de compassion et un regard d'amour.
Est-ce que l'énergie vient travailler sur nos cellules la nuit? Exemple, de travailler sur l'ADN et le changement de ses codes. Merci.
Certainement. Lorsque vous dites, est-ce que l'énergie, nous ne savons pas de quoi vous parlez, parce que vous parlez de tout lorsque vous parlez de l'énergie. Vous parlez de cette cassette qui vient de bouger, vous parlez de la chaise sur laquelle vous êtes assis, vous parlez aussi des murs de cette pièce, autant que vous parlez de l'énergie du cœur, car tout est énergie. Mais est-ce que vos guides, est-ce que nous dirons le Métatron et Sandalphon et les archanges et Michael et Raphaël et avec vous? Car s'il y a une partie de vous qui dort la nuit, il y a une partie de vous qui veille toujours. Et vous travaillez vous-même à votre propre évolution, et le jour et la nuit, et dans le rêve conscient et dans le rêve inconscient.
Est-ce possible à ce moment-ci, si un être veut se préparer avant de partir pour sa nuit, de se préparer pour travailler avec certains de ses maîtres, de comment qu'il doit faire?
Certainement, nous donnerons un exercice très facile. D'abord, jouez avec votre imagination. L'enfant intérieur aime beaucoup lorsque vous utilisez l'imagination qu'on vous a dit de taire lorsque vous étiez vous-même enfant et qu'on vous disait de ne pas avoir une tête de linotte. Alors, nous vous dirons, utilisez votre imagination, visualisez que vous entrez dans le plus grand aéroport de l'univers et qu'alors quelqu'un vient vous vendre un billet d'avion pour que vous puissiez rapidement aller contacter les maîtres et les guides et nous dirons ceux qui travaillent dans la hiérarchie. Et la hiérarchie, nous vous dirons, a des plans différents avec, nous dirons, des maîtres différents. Alors, demandez à être accueilli dans cette assemblée. Vous pouvez même vous voir arriver avec votre attaché-caisse, être accueilli et vous asseoir avec les êtres de lumière à table. Là, voyez que vous sortez vos dossiers et que vous demandez, par exemple, si vous avez des problèmes avec le premier ou avec le second chakra ou avec le plexus, demandez que ce dossier soit mis sur table et que ce soit pendant que votre corps est en train de se reposer pour mieux accomplir sa tâche le lendemain, demandez que ce dossier soit éclairci, demandez que vous soyez instruit à ce niveau, que vous reveniez le lendemain matin avec des outils qui peuvent vous être donnés par le biais du rêve ou par le biais de toutes sortes de signes extérieurs. Alors, nous vous dirons, vous travaillerez de concert avec les maîtres, avec vos guides, avec les archanges pour transformer rapidement votre énergie. Car lorsque vous êtes dans des plans supérieurs, nous vous dirons à ce moment-là, vous n'êtes pas alourdi par la matière.
L'ouverture de conscience nous amène-t-elle à ouvrir la porte sur la quatrième dimension et à faire de nous des gens de la sixième race? Et j'aimerais un commentaire, s'il vous plaît.
Cette question est une réponse. Nous vous dirons que oui, déjà, si vous avez la conscience suffisamment ouverte pour entendre les propos qui sont tenus ici ce soir, c'est que déjà vous êtes dans la sixième race. Nous ne disons pas que lorsque vous entrez dans la sixième race, vous y êtes fixé, comme nous dirons, cristallisé dans un état de cristallisation, mais que bien plutôt vous êtes dans un état de mouvement, c'est-à-dire que vous êtes comme une grande vague qui avance. Mais parfois, la vague est attirée par ce qu'il a si longtemps retenu depuis des millénaires. Puis vous retournez dans la cinquième race, puis vous revenez dans la sixième, et là, vous faites un état de conscience de plus. Vous libérez, nous dirons, une illusion supplémentaire. Et alors, vous retournez, recontactez d'autres énergies, puis vous revenez et vous libérez encore d'autres formes d'illusions. Et à force de vous libérer, à un moment donné, vous ne revenez plus dans la cinquième race. Vous saurez ceci lorsque vous contacterez à l'intérieur de vous l'énergie de paix et l'énergie de puissance. Alors vous saurez que vous êtes sorti définitivement de cette cinquième race. Vous commencerez déjà votre cheminement pour entrer dans la septième race à ce moment-là, qui est la race de ceux qui sont dans ce que nous avons appelé l'état impersonnel, c'est-à-dire sans personnalité visible pour le plan. À ce moment-là, nous vous dirons, vous reviendrez dans la sixième race pour entraîner vos frères, comme la vague entraîne les coquillages sur le bord de la mer, mais nous vous dirons, déjà, vous serez dans la quatrième dimension.
Lors de la rencontre sur le mythe de la mort, j'aurais aimé connaître plus de renseignements sur l'endroit où les gens qui quittent la Terre se retrouvent et qu'est-ce que le temple de l'Octave?
Certainement. D'abord, lorsque vous demandez où les gens se retrouvent, ils se retrouvent dans des lieux différents. Lorsque Jésus disait dans ses enseignements qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison du Père, c'est ça qu'il voulait dire. Il voulait dire que les gens vont dans des lieux différents. Il y a des gens, par exemple, s'ils sont des êtres qui sont encore dans la quatrième race, nous vous dirons, lorsqu'ils quitteront le plan terrestre, ils iront dans les parties les plus basses de l'astral. Et ils seront, nous dirons, comme dans la colère et dans la haine et dans des énergies très, nous dirons, très denses. Ils ne sauront même pas qu'ils ont quitté le plan terrestre. Ils seront dévorés par l'émotion. Mais il y a des êtres qui sont beaucoup plus évolués et qui, nous vous dirons, vont dans d'autres paliers ou d'autres demeures, si vous voulez. Nous avons déjà expliqué qu'il y avait 7 paliers différents dans l'astral et qu'entre chacun de ces 7 paliers, il y avait aussi encore 7 paliers. Alors là, nous parlons de 49 paliers Mais lorsque vous avez atteint le septième palier, c'est-à-dire ce que vous appelez sur la terre ici l'état d'illumination, vous allez dans des états de lumière, vous contactez des âmes très évoluées, mais vous revenez encore sur le plan terrestre. Voici que maintenant vous est donné l'opportunité, dans les temps présents, de franchir ce plafond de l'astral, de dépasser ce lieu de l'astral qui est au-delà de la sixième initiation et qui est au-delà de ce que nous avons appelé le Golden Bridge ou le pont de lumière or. Alors, nous vous dirons à ce moment-là, vous allez dans des lieux et vous ne revenez plus sur le plan terrestre, nous vous dirons pour expérimenter. Vous venez pour y travailler, vous venez pour collaborer à l'évolution du plan, mais vous ne venez plus dans l'expérimentation. Il y a des êtres qui sont sur ce plan et il y en a même parmi vous et plusieurs parmi vous qui, dans cette vie présente, commencent déjà, dans les temps présents, à quitter, nous dirons, les plans de l'astral pour se trouver dans ces états de paix dont nous avons parlé précédemment. Alors, pour eux, nous vous dirons, ils ont déjà franchi le seuil de la mort. Pour eux, la mort est morte, comme nous avions dit aussi dans cet enseignement. Lorsque vous parlez de l'octave, vous parlez alors de ces sept paliers, mais le sommet de l'octave, nous vous dirons, un octave, c'est le 7, mais c'est aussi le 8. Prenez la gamme, par exemple, vous dites Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et nous vous dirons, alors vous arrivez au 8, mais vous êtes comme dans la répétition du Do. Vous pourriez dire, il n'y a que 5, que 7, nous dirons que 7 notes, mais il y en a véritablement 8. Mais le 8e franchit déjà, il est déjà le Do de l'octave suivante. Alors, lorsque vous parlez de ce lieu de l'octave, nous vous dirons qu'au sommet de ce lieu, il y a le lieu en dehors du plan de l'astral. Est-ce que ceci vous est clair?
Oui, mais quand il disait que ce passage-là, c'était pour permettre la purification de la personne qui venait de quitter, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que ça veut dire? Qui se détache du plan terrestre.
Vous parlez de ceux qui passent par la mort?
Oui.
Nous vous dirons, bien sûr, la mort, comme la souffrance, comme la maladie, ont été des croyances. Vous avez créé ceci par vos croyances. Mais ne croyez pas que ces formes pensées ne vous ont pas servi d'une certaine façon. Elles ont permis de franchir des étapes initiatiques. Alors, nous expliquons que la mort a servi. Bien sûr qu'elle a servi et elle a asservi. Maintenant, vous êtes prêt à sortir de l'asservissement. Parce que votre conscience est suffisamment ouverte pour que vous compreniez que vous n'avez pas besoin d'être soumise à la mort. Alors nous vous dirons, il y a des gens qui ont vécu des morts tout à fait paisibles, qui ont lâché prise, qui ont fait confiance dans l'énergie. Et nous vous dirons, en acceptant ces formes de mort, car des morts, vous en vivez à chaque minute. Vous perdez des cheveux, vous perdez des ongles, vous perdez même des parents ou des amis ou des enfants qui se détachent. Ce sont des formes de mort. Comme la graine qui meurt dans la terre, nous vous dirons, elle devient un arbre. Et nous vous dirons, c'est pourquoi ces moments de mort ont été des moments initiatiques et ont permis à l'âme de pouvoir avancer et évoluer. Mais maintenant, vous êtes rendu dans une connaissance et une conscience qui est beaucoup plus élevée que ces étapes anciennes que vous avez connues. C'est pourquoi nous disons que la mort est morte. C'est pourquoi vous franchissez l'octave. Est-ce que c'est plus clair? Bienvenue.
Expliquez-nous les rayons. Vous nous les évoquez à chaque rencontre, mais n'avons pas reçu d'enseignement. Ces 12 rayons sont-ils reliés aux chakras, à des maîtres, et pouvons-nous les utiliser et comment?
Ceci est une question de 100 000 $. Nous vous dirons ce que nous allons vous proposer au lieu de vous donner un enseignement mitigé sur les rayons. Nous allons plutôt vous proposer de donner une assemblée tout entière sur ce sujet. À ce moment-là, nous pourrons vous parler de la puissance des rayons, de la fonction de chacun de ces rayons, des maîtres qui travaillent de façon très particulière avec ces rayons, comment ils sont reliés avec votre énergie, comment vous pouvez vous servir de la puissance de ces rayons, et nous vous dirons à ce moment-là, vous partirez instrumenté. Mais si nous allions répondre brièvement ce soir, vous partiriez insatisfait, comme vous êtes déjà insatisfait de voir que nous parlons des rayons, mais que nous n'avons jamais donné un enseignement complet à ce sujet.
Pour ceux qui sont intéressés à avoir plus d'informations par rapport à ces rayons-là, dans les livres de Mahatma, de Brian Grattan, sont clairement identifiés et clairement spécifiés. Alors,
est-ce que le livre est en français ou en anglais?
Est en anglais.
Nous vous dirons cependant, ne vous inquiétez pas, l'enseignement vous sera quand même donné. Il y a bien sûr Brian Grattan qui a écrit sur les rayons. Il y a aussi Alice A. Bailey. Et nous vous dirons que ces enseignements sont très complets, mais ils sont aussi très complexes. Si nous vous donnons une séance d'information à ce niveau, comme nous le faisons ce soir au niveau de la conscience, nous vous dirons que nous tenterons de vous apporter un enseignement qui soit concis et facilement accessible.
Question.
À quoi servent véritablement les pyramides? On parle de matrice primaire et comment les énergies sont-elles distribuées de la matrice à la Terre pour permettre la solidification de la matière?
Ceci est une question très intéressante. Nous vous dirons d'abord que pour comprendre, ceci est un sujet très complexe. Car pour comprendre toute la force et la puissance de l'énergie des pyramides, il faudrait que vous ayez une compréhension très détaillée de la puissance mathématique. Nous nous excusons. Nous vous dirons que les nombres ont des vibrations et que parce qu'ils ont des vibrations, ils émettent des ondes. Comme les notes de musique ont des vibrations, comme la parole a une vibration. D'ailleurs, tout est énergie, donc tout est vibration. Mais il y a des formes de corollaires ou des formes, nous dirons, de regroupement énergétique des nombres qui créent des forces et qui créent des puissances qui sont inaccessibles à celui qui n'a pas la connaissance mathématique. Nous vous dirons par exemple que lorsqu'un nombre est multiplié par lui-même et qu'il est à nouveau multiplié et multiplié et multiplié par lui-même, il intensifie une vibration. Nous donnons un exemple. Imaginez que vous avez le chiffre 3. Que vous multipliez ce 3 par 3 qui vous donne 6. Vous multipliez le 6 par 3 qui vous donne 18. Vous multipliez le 18 par 18. Nous vous dirons chaque fois que vous faites cette multiplication, que ce soit, nous vous dirons, au niveau architectural ou que ce soit au niveau vibratoire, par exemple, lorsque de la musique est composée par un grand compositeur qui est un médium de vibration très puissante, nous vous dirons, il connaît Parfois, il ne les connaît pas dans la connaissance mathématique telle que vous l'apprenez, mais il connaît ceci dans sa conscience. Alors, en émettant ces formes multipliées, c'est que sont multipliées la force et la puissance et la vibration. Il en est de même dans la construction des pyramides. Ceux qui ont construit les pyramides étaient des médiums qui avaient cette connaissance parfaite des mathématiques. Alors, ils sont partis avec une base qu'ils ont multipliée d'une certaine façon en montant ou qu'ils ont pris du sommet en allant vers le bas et multipliant le 1 qui est multiplié, qui devient le 4 si vous avez une... Si vous avez une pyramide à quatre faces et qu'ensuite, lorsque vous ajoutez, imaginez que ce sont des petites briques pour comprendre plus facilement ce que vous avez sur la pyramide, sur la face nord, vous l'aurez sur la face sud, vous l'aurez sur la face de l'est et de l'ouest. Simultanément. Alors, vous êtes toujours en train de multiplier. À force de créer cette multiplication, c'est que vous créez comme, nous vous dirons, comme si c'était un ressort énergétique. Et étant donné que la pointe de cette pyramide est parfaite, que la multiplication des nombres est parfaite, que ceci crée cette vibration multipliée, alors imaginez comment cette vibration du sommet jusqu'à la base peut créer une puissance énergétique. Et ceci a permis, bien sûr, ce que vous appelez la cristallisation. C'est pourquoi il y a eu des ceux que vous appeliez les pharaons qui étaient, lors de leur décès, placés dans les pyramides, ont subi la force et la puissance de ces vibrations. Et au lieu de, nous dirons, de se désintégrer, ils se sont cristallisés et c'était à cause de la force et de la puissance énergétique. Est-ce que ceci éclaire la personne qui a posé la question?
Oui.
C'est bien.
Je trouve que vos enseignements font beaucoup pour l'ouverture de conscience et je me demande si vous nous conseillez de propager vos enseignements en prêtant les enregistrements, par exemple.
Vous pouvez les prêter, vous pouvez les multiplier, vous pouvez les donner, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas d'imprimatur là-dessus, il n'y a pas d'interdiction. Nous vous dirons, multiplier la lumière ne demande pas d'autorisation.
Et on peut même en faire des pyramides aussi. C'est possible de parler brièvement concernant l'ouverture de la conscience. C'est comme si la télévision joue un rôle actuellement pour comme retenir la conscience. C'est possible d'en parler, s'il vous plaît, et comment s'en détacher?
Certainement. Vous pouvez vous en détacher et vous pouvez en rire aussi. Parce que si vous éveillez beaucoup la conscience, va dire un moment donné, vous allez ouvrir la télévision et vous allez voir tous les jeux et tous les rôles qui s'y jouent. Vous allez voir ceci multiplié. Vous allez voir les femmes, par exemple, qui jouent des rôles de séduction. Vous allez voir des hommes qui jouent les rôles, comment appelez-vous ceci, les machos? Ils joueront ces rôles de machos. Et nous vous dirons, il y aura aussi d'autres qui joueront les rôles de puissance. Vous observerez, par exemple, comment il y a des budgets énormes qui sont donnés dans tous ces systèmes télévisés. Puis vous ouvrirez ceci et vous direz, ce soir peut-être que ceci a coûté un huitième de million, mais j'en ai eu à peu près pour 5 sous. J'ai vu une personne qui a eu un élan du cœur. Et nous vous dirons à ce moment-là, ne jugez pas ceux qui créent ceci. Ils participent d'une certaine façon, indirectement, à rendre visible l'illusion. Comprenez-vous ceci? Mais viendra le temps où il y a des maîtres qui vont de façon tellement fine se faufiler à travers ceci. Et nous vous dirons, laissez paraître dans une fraction de minute un enseignement qui vaudra 100 ans de télévision regardés. Alors, nous vous dirons, ne maudissez pas votre télévision, mais n'en soyez pas esclaves. N'en soyez pas des esclaves, elle vous détourne de vous-même. Elle vous crée des besoins, elle vous crée des désirs. Elle vous est le portrait le plus parfait qu'on ne peut de ce qu'est la personnalité. Et nous vous dirons si vous avez fait des efforts depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous n'osons pas dire 75 ans, si vous avez fait des efforts pendant toutes ces années pour arriver à vous libérer de la personnalité, alors ne sombrez pas, nous dirons, dans l'illusion, car la télévision, elle émet aussi des ondes. Si les vibrations qui sortent de cet appareil sont des vibrations viciées, vous les subissez ou vous les recevez, peut-être que votre énergie est suffisamment puissante pour les retourner, mais nous vous dirons, vous prenez des risques, car parfois il y a des petits trous dans votre aura, et nous vous dirons, ces formes, nous dirons, pénètrent dans l'aura. Il y a bien sûr des émissions que vous pouvez regarder qui sont des émissions qui vous apportent des éléments culturels nouveaux ou qui vous mettent en contact avec les arts. Vous avez actuellement, nous vous dirons, sur votre appareil une pluie télévisée des jeux de, comment appelez-vous, olympiques. Et nous vous dirons à ce moment-là, vous pouvez tirer leçon de ceci. Il y a des gens qui ont fait des efforts physiques pour avoir une médaille d'or, qui ont sacrifié des heures et des heures de travail à ceci, qui ont fait des efforts incessants, qui ont axé toutes leurs pensées sur cette médaille d'or, qui ont sacrifié des relations, qui ont même sacrifié la nourriture, qui ont tout fait pour arriver à ceci. Ils sont des modèles parfaits que vous pouvez utiliser pour vous-même fixer votre pensée sur la lumière. Si eux, ils peuvent, avec ces efforts, aller chercher la médaille d'or, pourquoi vous, avec les mêmes efforts et la même énergie, ne pourriez-vous pas aller chercher votre corps de résurrection? Alors, ceci peut servir, bien sûr.
Comme dernière question, dans le cadre de l'ouverture de conscience ou le gai rire, pouvez-vous nous transmettre une visualisation nous préparant à la visite de Brian Grattan et que l'on soit présent ou pas à ces ateliers? Merci.
Certainement. Nous vous dirons d'abord que c'est bien étrange ce que nous allons vous dire. Nous vous demandons de ne pas faire un dieu avec cet homme, mais de le voir dans son taux vibratoire très élevé comme étant tout simplement un miroir, soit de votre déjà du degré que vous avez atteint vous-même, qui peut être simultané au sien, ou du degré que vous êtes en train d'atteindre, et nous dirons de ce même but que vous fixez, ou ce même, nous dirons, ce même objet. Nous n'aimons pas l'expression objet, mais nous dirons que vous avez tous le regard fixé sur le cœur du Père et sur cette énergie parfaite qui va vous faire recontacter votre énergie de Créateur. Alors, nous vous dirons, bien sûr, cet homme a beaucoup travaillé. Il a accepté, lorsqu'il était venu ici sur le plan, au temps de Jésus, de jouer le rôle de Pierre. Et nous vous dirons, ce rôle n'était pas facile dans cette société où tout était encore plus dense dans la matière que ceci ne l'est dans les temps présents. Où nous vous dirons, les autorités qui étaient en place avaient une haine telle contre ce Jésus de Nazareth qui avait bouleversé les gens, qui leur avait parlé de liberté, qui leur avait parlé de briser le mur de la cité pour enfin aller voir de l'autre côté, qu'ils n'étaient pas obligés d'être dans cette ville avec des murs fermés sans se poser de questions. Il est venu comme un trouble fait. Et nous vous dirons, Pierre, qui était, qui a accepté de jouer ce rôle auprès de Jésus, nous vous dirons, il a franchi à ce moment-là des paliers initiatiques importants. Dans ces 2000 ans, il est revenu à plusieurs reprises, aussi sur le plan terrestre, pour défendre la parole sacrée, pour défendre la lumière, pour enseigner cette lumière. Et voici que présentement, il sait qu'il va quitter le plan terrestre dans la lumière et qu'il va entraîner beaucoup d'êtres dans la lumière avec lui. Mais il sait qu'il n'est pas seul et il sait que nous dirons que cette ascension ne se fera pas dans l'individualité, mais elle se fera, ainsi que nous l'avons expliqué précédemment, dans une forme de conscience collective, de cette collectivité qui sera ce que nous appelons la conscience, nous dirons, impersonnelle, c'est-à-dire dans cette énergie de fusion. Alors, ainsi que vous le demandez, nous proposons cet exercice. Nous demandons à chaque personne ici présente de bien vouloir se placer dans son propre centre. Visualisez maintenant que cette pièce n'a pas de mur. Qu'elle n'a pas non plus ni plancher ni plafond. Et que vous êtes dans un espace qui est vibration de lumière. Laissez-vous porter par cette vibration lumière. Visualisez maintenant qu'autour de la collectivité que vous êtes ici présent, avec toutes les âmes qui cherchent sur le plan terrestre, vous vous retrouvez dans une forme ovoïde, tous ensemble. Comme si vous étiez chacun une cellule du Christ nouveau qui veut naître. Voyez que cet œuf est immense et qu'il est nourri par la lumière violette. Sentez que vous n'avez plus de corps physique, mais que vous n'êtes qu'une cellule, touchant toutes les cellules des êtres qui sont ici présents et des autres qui s'ajoutent. Voyez maintenant cet homme, Brian Grattan, dépouillé de sa personnalité, dépouillé de son apparence physique. Ne le voyez pas dans la matière, voyez-le uniquement dans la lumière. Voyez maintenant qu'il vient avec l'épée de Michaël, et qu'il frappe la coquille de l'œuf. Pour que cet œuf puisse s'ouvrir. Mais qu'il la frappe avec respect. Avec la conscience qu'il ne doit pas poser de gestes prématurés. Sentez le contre-coup. Sentez que la matière que vous êtes, qui est lumière, bouge à l'intérieur de l'œuf. Voyez maintenant que cet homme ou que cet être de lumière est assis au sommet de l'œuf. Et que l'œuf craque par le sommet. Et que dans un mouvement d'ascension, il entraîne les cellules qui sont les plus rapprochées du sommet. Mais que toutes les cellules qui sont dans l'œuf se préparent à monter dans ce grand mouvement ascensionnel. Voyez alors que la coquille se brise totalement et que la conscience christique s'éveille dans toutes les âmes qui ont cherché cette lumière. Maintenant, comprenez que même si vous revenez sur le plan dans votre corps de matière, dans cette pièce qui a un plafond, un plancher et des murs, déjà dans la conscience, vous préparez ce Christ collectif qui a promis son retour et qui demande à Pierre de l'accompagner à nouveau dans cette démarche. Que ceci soit accompli 3 fois. Amen. Et maintenant, nous devons quitter la forme.
Merci beaucoup.
Que votre pays du Québec, qui est un pays sacré, soit béni. Amen.
Seigneur, protège toutes les entités présentes, peu importe la source. Que les êtres de lumière se joignent à nous et qu'ils déversent en grande quantité sur la terre et dans l'univers le son, le souffle et la lumière.
Amen.
Suivant le besoin, veillez, s'il vous plaît, ajuster tout taux vibratoire, de même que le système sanguin et tout système physiologique qui ont pu être ralentis, afin que ceux-ci redeviennent à la normale d'une manière naturelle et continue maintenant.
This is done.
Que ce corps se réveille se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré.